La préparation du carême, qui était la première préparation, c'était de recevoir le Seigneur comme sauveur. 2 semaines passées, j'avais pas prêché ça. Et bien sûr, le Seigneur répond les prières. Amen. On a besoin de recevoir le Seigneur comme sauveur dans notre cœur pour pouvoir vraiment célébrer Pâques. Sans ça, encore là. It's just a glang, comme qu'ils disent en anglais. C'est rien. Mais avec le Seigneur, pour nous préparer à Pâques, ça fait toute la différence. Avec le Seigneur, on doit recevoir le Seigneur comme sauveur. Et la semaine passée, Pasteur Greg, bien sûr, a apporté une bonne prédication encore, avec la plénitude de Dieu. Mais durant la plénitude de Dieu, dans son prédication, il parlait de la plénitude du Saint-Esprit aussi. Alors, la deuxième préparation pour cette semaine, pour Pâques, c'est la préparation de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, Roua. Roua est le mot grec pour souffle de Dieu. The Roua of God. Le souffle de Dieu. Vous verrez, on va le lire plus tard. Mais on a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, on a besoin de recevoir le Seigneur comme sauveur. Et deuxièmement, on a besoin de recevoir une plénitude de l'Esprit qui va faire une différence pour notre célébration de Pâques. Alléluia. On va regarder ce matin dans Jean 20. Si vous avez votre Bible et vous voulez tourner, dans Jean 20, verset 19 et dans Acte 2. Alors, si vous voulez vous préparer, et en vous préparant, une petite histoire. Vous rappelez tous de Mark Twain. Hein? Vous avez entendu parler de Mark Twain, j'espère. Mark Twain, à un moment donné dans sa vie, il a dit ceci. C'est mon espoir que nous tous, les hauts, les bas, les riches, les pauvres, les admirés, les méprisés, les aimés, les haïs, les cultivés, les sauvages, tous, que tous qu'on puisse éventuellement être rassemblés dans un ciel de repos, de paix et de bonheur éternel, à l'exception de celui qui a inventé le téléphone. À l'exception de celui qui a inventé le téléphone. Mark Twain avait vraiment une haine pour celui qui a inventé le téléphone. Et probablement parce que, entre autres choses, le téléphone, ça rend une personne facilement accessible, n'est-ce pas? Même quand on ne veut pas y être dérangé, ça nous rend accessible. On est tout le temps là. Le téléphone est tout le temps là. Il semble qu'il est toujours présent. Bien sûr, il y a quelqu'un qui pourrait dire, ben, vous avez seulement pas à répondre au téléphone. Oui, on sait. Mais maintenant, spécialement, parce que les téléphones mobiles qu'on a, on dirait qu'ils sont tout le temps là. Puis on dirait qu'on n'est pas forcé, mais à répondre. On dirait qu'ils pouvaient avoir accès à nous n'importe quand. On dirait que c'est tout le temps là, tout le temps présent. Souvenez-vous de ça la prochaine fois que le téléphone sonne, puis il y a quelqu'un sur un ordinateur à l'autre bord qui dit qu'il veut vous vendre quelque chose pour votre maison. Ça m'arrive presque toutes les semaines. Je demande à mon fils, puis le téléphone sonne, puis c'est un message d'ordinateur, blablabla. Ça arrive souvent. Ils vont vous vendre quelque chose. Twain avait peut-être raison. Amen. Amen. Il y a plusieurs choses aussi dans nos vies qu'on dirait qui est tout le temps là, qui est toujours présent, n'est-ce pas? Les responsabilités, toujours là. Les préoccupations, les conditions médicales, tout le temps là. Les obligations financières, le travail sans fin, chaque jour, répéter le même travail, ainsi de suite et ainsi de suite. Beaucoup de choses qui semblent être tout le temps là dans nos vies. Mais savez-vous que la chose qui occupe une personne n'est pas la même pour tout le monde? Vraiment, ce qui est considéré comme toujours là, toujours présent dans la vie d'une personne, est déterminé par quoi ce qu'elle choisit d'être tout le temps là. Quoi ce qu'elle choisit d'être toujours présent. Amen? On est là? Amen. Amen. Il y a une autre sorte de tout le temps là, toujours présent, que j'aimerais vous parler ce matin. Une autre sorte. Est-ce qu'on peut lire dans Jean 20, 19 à 23? Jean 20, 19 à 23. La parole nous dit ceci. Le soir de ce jour-là, le premier jour de la semaine, la porte était fermée là où se trouvaient les disciples, par crainte des Juifs. Jésus vient se tenir parmi eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté, puis les disciples furent heureux qu'ils virent le Seigneur. Jésus leur dit encore, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et quand il dit cela, il souffla. Il souffla. Roua. Le mot roua. Et quand il dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés de quelques-uns, ils sont pardonnés. Si vous conservez les péchés de quelques-uns, ils sont retenus. » Acte 2, 1 à 3. Quand le jour de la Pentecôte est venu, ils étaient tous réunis au même endroit. Et soudain, un bruit vint du ciel comme la ruée d'un vent puissant. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues comme de feu, distribuées et reposant sur chacun d'eux. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, sans ton esprit, Seigneur Jésus, ça vaut rien. Mais Seigneur, avec ton esprit, je te prie ce matin encore, Seigneur Jésus, avec cette courte prédication, que tu viennes toucher où ce que nous autres, on ne peut pas. Mais Seigneur, que toi, tu peux par ton esprit. Toi, tu connais les cœurs. Donc, je te prie, Seigneur Jésus, que tu uses ces simples paroles, Seigneur, pour toucher les cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Viens remplir. En ton nom, je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Selon Paul, selon la parole, la vie qui cherche les choses de ce monde atteint la corruption, tandis que la vie dans l'esprit atteint la vie éternelle. Hein, c'est ça que ça nous dit dans Galates 6:8. Excuse-moi. Dans Galates 6:8, ça nous dit... Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera de la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Les potentiels du Saint-Esprit sont sans limite, illimités. Amen. La puissance, les potentiels du Saint-Esprit sont sans limite. Je vous en donne quelques versets. Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit aussi qui vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander par nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent s'exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, c'est extraordinaire, on les lit trop souvent. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Remarquable. En d'autres mots, on prie souvent, et on ne sait pas vraiment comment prier. On ne sait pas vraiment les bonnes choses à dire. Et le Seigneur prend ça, puis le Saint-Esprit édite ça. Vous savez ce qu'est édite? Je le fais souvent, parce que je fais souvent sur l'ordinateur, je fais des erreurs, je suis obligé d'aller dans édite pour corriger. Édite. Il corrige. Édite. Il corrige nos prières et il les envoie au Père. Il sait ce qu'on a de besoin. Nous autres, souvent, on ne sait pas. Ce n'est pas remarquable. Sans limite. Le Saint-Esprit, les potentiels, sans limite. 1 Corinthiens 12, 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous avons tous bu à un seul esprit. 2 Corinthiens 5, 5. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le dépôt de l'esprit. Alléluia. Lorsqu'on est venu au Seigneur, lorsqu'on a accepté le Seigneur dans nos cœurs, on a le dépôt du Saint-Esprit. On a le dépôt du Saint-Esprit en nous. Ouh! Moi, je ne sais pas pour vous autres. Ben. Il nous a donné son esprit. Souvent, parfois, par exemple, en vivant notre vie, ce dépôt de l'esprit devient comme noircir. On dirait qu'il n'est plus là. On dirait que ça n'agit plus là. C'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé. Pasteur Greg a parlé la semaine passée d'un vent nouveau. On a besoin de ce vent nouveau-là. Souvent, chaque jour, chaque jour. Ça, c'est une toujours là qu'on devrait avoir, qu'on devrait vouloir, un tout le temps là, qui est vraiment remarquable. Ce matin, je ne veux pas vous donner une définition complète du Saint-Esprit et son œuvre. Premièrement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, ça serait comme prendre un portrait du vent, une photo du vent. Il est possible de voir où le vent souffle, il est possible de voir où le vent est allé, et c'est possible de le sentir sur nos visages même. Mais de le voir et de le décrire, je ne suis pas sûr. C'est de même en essayant de définir le Saint-Esprit aussi. Il est possible de voir où il est allé. Il est possible de le ressentir, sa présence sur nos vies, mais nous n'avons pas la capacité humaine de décrire de manière satisfaisante ou d'expliquer de manière complète le Saint-Esprit. On ne l'a pas. Le mot grec pour Saint-Esprit, comme vous savez peut-être, c'est parakletos. Paraklet en français, parakletos. Le mot grec, le mot traduit simplement le mot comme le consolateur. La Bible traduit le mot comme consolateur. Et même le mot consolateur, ça semble qu'on ne peut pas saisir la plénitude, le sens complet du paraclet, du Saint-Esprit. Ça semble que ça, ou la nature, la fonction du conseiller, on dirait que ce n'est pas complète encore. Mais c'est pas remarquable qu'après la résurrection où Jésus est apparu aux disciples, lorsqu'il leur a montré ses mains et son côté, il leur a dit à deux fois, « La paix soit avec vous. » Et après, il leur a dit deux fois, « Recevez le Saint-Esprit. » Remarquable. Bien sûr, la paix soit avec vous, et souvent dans les Écritures, souvent dans les Épîtres, vous voyons ça, la paix soit avec vous, c'est comme une salutation. C'est comme une bénédiction, une salutation envers les gens qui écrivent. Mais le mot « recevez le Saint-Esprit » est différent. C'est différent. On dirait que ça contient plus. Ça contient beaucoup plus. Moi, je pense que ça contient, premièrement, une invitation. Deuxièmement, ça contient une confirmation. Et troisièmement, ça contient une consécration. Et c'est ça que je voudrais vous parler un peu ce matin. Premièrement, on va regarder un peu à l'invitation. Jésus invitait les disciples à reconnaître et à recevoir le Saint-Esprit. Ce chose qui devrait toujours être là, qui est toujours là, qu'on a mentionné. 3 ans avant, il leur avait lancé une autre invitation, si vous vous souvenez, en disant « Suivez-moi, vous tous qui avez soif, suivez-moi. » L'invitation était qu'il les appelait à laisser leur filet de pêche et leur table d'impôt et leur famille et leurs amis et de suivre Jésus. On regarde à nouveau les films « The Chosen » et on regarde ça et bien sûr les disciples laissaient leur filet et Matthieu, le pauvre Matthieu, il laissait sa table de taxes qu'il prenait. C'est vraiment un bon film. Alors, on voit ça, qu'il laissait des choses, mais il laissait des choses à quoi? À quoi vraiment? Ça nous explique dans Matthieu 10, 5 et 8. Ça nous dit, Matthieu 10, 5 et 8. Ce sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez et disez, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Encore une bonne parole pour aujourd'hui. Amen. allez vers les gens et disez-leur, le royaume est proche. Le Seigneur revient bientôt. Encore plus de cette heure que c'était ce temps-là même. Et encore plus proche. L'invitation impliquait un engagement. Un engagement envers la personne de Jésus-Christ. Et tant que le Seigneur de leur vie, et tant qu'ils l'acceptaient comme le Seigneur de leur vie, son ministère serait leur ministère. Leur ministère. Mais il y avait même plus que ça. Il nous dit dans Matthieu 10, 40, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Qui reçoit le Père. Alléluia. Jésus a premièrement invité ses disciples à le recevoir comme Seigneur, comme Sauveur de leur vie. « Suivez-moi, vous tous qui avez soif. » 2000 ans plus tard, cela reste le premier pas que nous sommes invités à faire encore aujourd'hui, à l'invitation de l'accepter comme Seigneur, comme qu'on a vu 2 semaines passées. Plus tard, Jésus invite les disciples à recevoir l'Esprit de vérité qui procède du Père, comme qu'il l'a expliqué, de recevoir le Saint-Esprit. Deux invitations. Recevez le Seigneur comme Sauveur. Et recevez le Saint-Esprit, offert à tous ceux de tout âge qui confessent Jésus comme Seigneur. Ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie peuvent recevoir le Saint-Esprit. Si qu'ils n'ont jamais reçu le Seigneur comme Sauveur, malheureusement, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit et être guidés par lui. N'est-ce pas triste que le monde aujourd'hui ne peut pas être guidé par le Saint-Esprit dans leur vie, dans leur marche, dans leurs problèmes, dans leurs fardeaux, dans toutes les choses? Quelle tristesse! Ils ont besoin de recevoir le Seigneur comme Sauveur, premièrement. C'est ça qu'on devrait leur parler à propos. Alléluia. 2 invitations. Recevez comme Sauveur, recevez l'Esprit-Saint. Des bonnes invitations. Deuxièmement, la confirmation. Jésus a fait plusieurs promesses dans la parole. Et la plupart de ces promesses-là sont vraiment extraordinaires. Encore une fois, je le dis, on les lit trop vite. Ils sont extraordinaires. En voici une. Luc 11, 9 à 11. Demandez et il vous donnera. Extraordinaire. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe sera ouvert. Extraordinaire. Pensez-vous pas? Pas croyable. Des paroles extraordinaires prononcées aux disciples en privé. Luc 12, 12. Le Saint-Esprit vous enseignera dans les moments difficiles ce que vous devez dire. Come on. Really? De la misère à parler au monde, de la misère à témoigner qu'on dit souvent. Le Saint-Esprit nous dit qu'il nous donnera les paroles. Extraordinaire, non? Pas croyable. Luc 12, 32. Ne crains rien, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de ton Père de te donner le royaume. Wow. Vous ne paraissez pas excité. Moi, ça m'excite. Gloire à Dieu. Praise the Lord, praise the Lord. Ne craignez rien. Worry pas about les taxes. Worry pas about les... Ne craignez rien. Notre Père te donnera le royaume. Dernière. Luc 12, 51. Pensez-vous que je suis venu pour donner la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Ouch. Différent. Mais encore extraordinaire. Encore extraordinaire. Il y en a plusieurs autres. Pouvez-vous vous imaginer comment est-ce que les disciples faisaient pour comprendre ces choses-là? Quand est-ce que le Seigneur leur a dit ça, pouvez-vous vous imaginer qu'est-ce qu'il... Tu vas nous donner le royaume? Oui, ben, on va avoir un combat avec les Romains, puis on va avoir une grosse guerre, puis on va... Comment est-ce qu'ils pouvaient comprendre? Avec ça, il y avait aussi toute l'histoire de le Fils de l'homme qui allait être moqué, qui allait être flagellé, qui allait être crucifié et qui allait ressusciter. Comment? Ressusciter? Comment est-ce qu'il fait pour comprendre des promesses si extraordinaires? Pourtant, avec le temps, ils finiront lentement par comprendre que si quelque chose avait été promis, aussi extraordinaire que c'était, ça allait arriver, ça allait être accompli. Même la partie du conseiller, le Saint-Esprit que le Père enverra, ça a été confirmé. Confirmé. Une à une, les promesses ont été confirmées. Prenez soin de ça. Prenez note de ça. Les promesses ont été confirmées. Pouvez-vous voir dans votre esprit Jésus devant ses disciples, leur montrant ses mains, son côté, confirmant les promesses? Hein? Je vous avais dit, hein? Hein? Thomas, viens ici, viens. Mets ton doigt là. Hein? Vous voyez les trous dans mes mains. Hein? Confirmez les promesses. Oh, pouvez-vous imaginer les disciples? Wow! Merci Seigneur. Confirmez. Pendant des siècles pourtant, il avait confirmé dans sa parole la stabilité du plan de Dieu, n'est-ce pas? Dans le Vieux Testament, on l'a vu, je suis sûr que vous l'avez lu. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire dans Nombre qui nous dit qu'il y avait une grande procession qui se déroulait dans les rues de Jérusalem le dernier jour de la fête des tabernacles. La procession se déplaçait lentement du temple à travers les rues de la ville vers la porte de l'eau, que ça s'appelait, en descendant la colline de Sion jusqu'à la piscine de Siloé. Là, les prêtres en robe blanche qui avaient marché en avant de la procession remplissaient d'eau leurs vases. La procession était ensuite revenue sur ses pas jusqu'au temple où les prêtres se rassemblaient autour de l'autel du sacrifice et vidaient leurs vases contre le côté de l'autel. Alors que les vases étaient vidés, le cœur de Lévitique chantait les paroles de Ésaïe 12, 3, qui était « C'est avec joie que tu puiseras de l'eau dans les pluies du salut. » Remarquable. C'est avec joie que tu puiseras de l'eau dans les puits du salut. Le Nouveau Testament nous dit que 7 siècles et demi après Ésaïe, il a écrit ces paroles. 7 siècles et demi, au-dessus de 700 années là, après, Jésus de Nazareth se tenait près du temple et regardait la procession traditionnelle, écoutant la musique des trompettes et les chants des Lévites dans le dernier jour de la fête des tabernacles. Et par-dessus tout, la voix de Jésus a été entendue à dire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Merci Seigneur. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » On peut entendre l'importance de ces paroles-là, n'est-ce pas? Si quelqu'un a soif, le monde a soif. Ils ne savent pas de quoi, mais ils ont soif. C'est à nous à leur avertir, à leur dire la chose qu'il va rassasier leur soif. Comme qu'il a dit à la femme samaritaine qu'on a vue hier soir, qu'on a vu, elle a dit à la femme samaritaine, « Donne-moi de ce là à boire, comme la samaritaine a dit. » On peut presque entendre l'importance. Après, la parole nous dit ceci. Or, il dit ceci à propos de l'Esprit, que ceux qui croyaient en lui devaient recevoir, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Quand ils ont entendu ces paroles, certaines personnes ont dit, « C'est vraiment le prophète. » D'autres ont dit, « Ceci est le Christ. » Mais certains ont dit, « Le Christ viendra-t-il pas de Galilée? » L'Écriture n'a-t-elle pas dit que le Christ descend de David et vient de Bethléem, le village de David où David était? Il y avait donc une division parmi les peuples à son sujet. Certains d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne lui imposa les mains. Des divisions. Mais peu importe qu'il y avait des divisions, l'invitation était toujours là. Celui qui a soif, venez à moi. Celui qui a soif, venez à moi. Quand Jésus a apparu aux disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a confirmé de manière extraordinaire par sa présence la puissance infinie de Dieu pour même ressusciter les morts. Et si cette puissance de Dieu qui est en abondance, le Saint-Esprit est capable de soulever et d'enlever les fardeaux et les douleurs de notre vie aujourd'hui. Il est capable de les enlever de nos vies. Alléluia. Invitation, confirmation, finalement, consécration. La consécration. Il ne s'agit pas seulement d'une salutation ou d'une invitation, mais aussi d'une confirmation. Jésus a dit dans verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, de même je vous envoie. » Confirmation. Les disciples étaient consacrés au service que leur avait été donné par la puissance du Saint-Esprit, la puissance qu'ils avaient reçue de recevoir le Saint-Esprit. Ils avaient été consacrés à ça. Une histoire d'un évêque méthodiste qui était le prédicateur lors de leur conférence annuelle à Little Rock, Arkansas. La dernière soirée de la conférence annuelle était toujours un moment très important durant leur service d'ordination, un gros service de les ordinations. Le sanctuaire était toujours rempli de gens, les délégués, les laïcs, les membres du clergé, les familles, les amis qui viennent partager ce grand moment pour ceux qui vont être ordonnés. À cause de cette grande participation, les chaises, bien sûr, étaient serrées dans tout le sanctuaire. Et un des délégués, qui était l'un des anciens qui allait participer aux ordinations, disait qu'il était assis avec les autres anciens participants en avant du sanctuaire, mais à côté de l'estrade. Le prédicateur se tenait à la chaire sur l'estrade pour prêcher, mais il dit « je ne pouvais pas le voir ». Il dit qu'il y avait un grand arrangement de fleurs qui était placé entre le prédicateur et lui, qui obscurait sa vision. Je pouvais voir ses mains qui faisaient des gestes, je pouvais entendre sa voix aussi bien que voir ses mains, mais je ne pouvais pas voir le prédicateur. Il dit que c'était vraiment frustrant. Il dit que c'était comme garder la télévision, puis il y a toujours quelqu'un qui est en avant, que tu es obligé de déménager. C'était comme essayer de regarder la télévision lorsque quelqu'un se tenait en avant. Et il dit, la pensée est venue de mon idée. Comment est-ce que ça devrait être frustrant pour les gens de ce monde qui cherchent des preuves convaincantes que Dieu existe? Ils peuvent voir la Bible, ils peuvent entendre lire la Bible, ils peuvent voir les églises, ils peuvent observer tout leur programme, ils peuvent voir tous leurs gestes. Mais ce que le monde cherche, c'est l'évidence que Dieu agit dans la vie. Dieu agit dans les vies. Voir des preuves qu'il change encore les vies aujourd'hui. Frères et sœurs, s'il y a un temps dans le monde qui a besoin de voir ce contact avec Dieu, c'est bien maintenant. De voir le contact de Dieu Tout-Puissant, de la manifestation du Saint-Esprit, et ça se fera en travers de nous. De nous, de ceux qui connaissent et qui croient et qui ont accepté le Seigneur et qui ont demandé au Seigneur, le Saint-Esprit, de nous remplir. Le monde a besoin de voir ça à travers nous. Jésus a invité ses disciples à recevoir le Saint-Esprit, à témoigner de la confirmation de sa promesse et à être consacré au service de la chose qui était toujours là, qui devrait être toujours là. Je vais demander au groupe si vous voulez en venir de nouveau ce matin. Amenez un chant. Et comme le Christ a dit ses paroles, il le dit encore ce matin. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront d'eux. Recevez le Seigneur comme sauveur et recevez le Saint-Esprit. Ce matin, l'autel est ouvert. Si vous voulez recevoir le Seigneur comme sauveur, s'il vous plaît, avancez, on va prier avec vous. Si vous voulez recevoir la plénitude du Saint-Esprit à nouveau, si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, vous l'avez reçu mais vous ne le sentez pas, si vous jamais vous voulez être rempli à nouveau du Saint-Esprit, l'autel est ouvert. L'autel est ouvert, on va prier avec vous. On veut ouvrir nos cœurs ce matin. Amen.